Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint,
Jérémy Besset.
Bonjour à toutes et à tous. La littérature est décidément un art puissant qui, au-delà de ses vertus de divertissement, peut ouvrir des horizons ou déclencher des volcans. C'est ce qui est arrivé à l'écrivain que je reçois aujourd'hui, dont le nouveau livre intitulé « Qui n'est pas raciste ici ?» point d'interrogation, paru aux éditions Jean-Claude Lattès, est né d'une triste réalité, une affaire qui commence par une lettre envoyée le 24 septembre 2018, adressée à notre invité donc, et rédigée par une professeure de français. Voici un extrait. Je voulais vous prévenir que nous avons lu des extraits du porteur de cartable. Il y a eu une levée de boucliers de certains élèves, car l'auteur n'est pas français. Entre parenthèses, j'aimerais qu'ils écrivent le français comme vous. L'histoire ne concerne pas la France. À nouveau entre parenthèses, ils ne savaient pas que l'Algérie avait été française. Et il y a du vocabulaire en arabe. Trois petits points. Un élève a refusé de lire pour ne pas prononcer le nom Messaoud. J'ai dû l'exclure. Autrement dit, des réflexions vraiment racistes. J'ai fait un rappel à la loi. J'espère que cela ne vous rebute pas de les rencontrer. Dites-moi votre sentiment là-dessus, s'il vous plaît, cordialement. Fermez les guillemets. Bonjour Akli Tadjer.
Bonjour.
Vous êtes donc le destinataire de ce courrier où l'on a entendu une professeure de lycée vous informer de la réaction violente de certains de ses élèves à l'égard de votre roman « Le porteur de cartable » publié en 2002. Quelle a été votre première réaction à la lecture de ce mot ?
En fait, Le porteur de cartable, c'est un roman qui est au programme du bac depuis des années maintenant. Alors, je suis très flatté, moi qui n'ai quasiment pas fait d'études, donc pour moi, c'est un peu ma décoration. Quand j'ai reçu ce mail, évidemment, j'étais choqué. Choqué et quelque part blessé, parce que c'est la première fois que je recevais quelque chose d'aussi violent. On ne reçoit pas tous les jours des mails comme ça d'enseignants qui vous disent que certains de leurs élèves refusent de lire votre roman pour les raisons que vous venez d'évoquer. Donc, j'ai été choqué et puis me sont revenues en tête les phrases que m'avait dites cette enseignante quand je l'ai rencontrée. Parce que j'ai rencontré cette enseignante dans une librairie où je faisais une signature. Elle avait fait une... Elle était venue, mais elle avait déjà lu Le porteur de cartable. Elle me dit « Monsieur, est-ce que vous pouvez intervenir dans mon établissement ?» Parce que donc j'ai lu Le porteur de cartable et je pense que ça leur ferait du bien. Alors, je dis « Du bien ?» Oui, du bien. Je veux bien que mes romans fassent du bien, mais qu'une enseignante à ce moment-là. Et moi, j'ai compris un peu le message subliminal. Je connaissais la région où je signais, je connaissais un peu le climat ambiant. Donc, j'ai accepté. J'ai accepté que pour cette raison, parce que souvent on m'invite et comme c'est un roman qui date, j'ai pas envie d'être comme un vieux comédien qui fait le même show depuis des années, donc j'ai accepté. Et donc voilà, quelques temps avant la rencontre avec ses élèves, j'ai reçu le mail que vous venez de lire. Donc elle me dit, est-ce que ça vous rebute ou etc. Alors au départ j'étais pas très chaud pour les rencontrer, mais ça m'a motivé. J'avais envie de les voir, pas pour leur faire la morale, mais pour leur dire mes convictions.
Alors avant d'en arriver à cette étape que vous racontez donc dans ce récit, peut-être rappelons en quelques mots Le porteur de cartable. C'est une histoire d'amitié entre deux jeunes garçons.
C'est l'histoire de nous sommes en mars 62, c'est la fin de la guerre d'Algérie. Il y a un petit Algérien qui est né à Paris, donc il connaît que Paris. Et puis à faire la connaissance d'un petit rapatrié d'Algérie, pied noir, comme on disait à l'époque. Et en fait, tous ces gamins qui ont tout pour devenir les meilleurs ennemis du monde, parce que le papa du petit Omar fait partie d'un petit réseau du FLN, et donc l'autre, voilà, c'est un naufragé de l'histoire. En fait, comme le monde des enfants n'est pas celui des adultes, ils vont passer outre le ressentiment des parents et devenir, voilà, un peu, comme on dit familièrement, les deux faces d'une même médaille, quoi.
C'est donc un roman d'apprentissage qui raconte tout un pan de mémoire de l'histoire France-Algérie. Donc c'est un texte qui, en effet, est au programme du bac parce que il prône les valeurs de la compréhension, de la bienveillance, n'attise pas du tout la haine de l'autre. Et du coup, vous vous rendez compte, je pense à Akli Tadjer, que le problème ne vient pas tant du roman que certains n'ont pas lu d'ailleurs, mais qu'il y a autre chose. Et d'ailleurs, cette autre chose, vous en prenez vraiment conscience quand vous postez sur les réseaux sociaux l'information que bon, ben voilà, certains élèves ont refusé de lire votre roman. Et là, d'un seul coup, vous recevez une vague de soutien, mais considérable.
Non, mais c'est hallucinant, parce qu'en fait, que je vous raconte un peu la fin de ma rencontre avec l'enseignante. Donc, elle m'envoie ce mail. Elle me dit, donc, est-ce que vous voulez toujours venir? Je lui dis, d'accord, mais à une condition, c'est que moi, je publie ce mail sur Facebook. J'avais que Facebook à l'époque. Je me suis un peu modernisé depuis. Mais au début, elle était hésitante parce que à l'éducation nationale, ils sont très frileux sur ces choses-là. C'est comme ils disent, on met la poussière sous le tapis. C'est une expression des enseignants. Et je lui dis, écoutez, ça peut pas rester contre nous, cette histoire. Parce que sinon, ça n'a aucun sens. Je peux pas arriver dans cette classe et puis faire comme si de rien n'était. Coucou, comment allez-vous? Donc elle hésite et je poste. Et moi, je pensais être liké, comme on dit. Voilà, quelques amis, entre guillemets ou sans guillemets. Et puis là, ça a été une avalanche, mais inouï, c'est-à-dire que le New York Times en a fait un article, il y a eu toute la presse, les journaux israéliens, algériens, français, beaucoup. Mais français, c'est marrant, ça a été traité plus. Aucun journaliste littéraire ne s'est mouillé sur cette histoire, à part Clara Dupont-Mono, que je répète, mais c'était la seule. Sinon, il a été traité comme un fait de société. Moi, j'ai trouvé un peu que c'était un peu choquant quand même, parce que ça concerne quand même la littérature. Bon, j'ai passé outre. Et puis, ça a été relayé par tout un tas de médias, mais c'était une grosse affaire. Et alors, où l'affaire s'est dénouée assez vite, c'est que le professeur du lycée refusait, enfin, était gêné, quoi, pour cette rencontre. Il savait pas quoi faire. Enfin, il attendait des ordres d'au-dessus. Et dans la région, il y a le quotidien local, puis un gros quotidien qui a titré « Aclit Adjer, l'écrivain indésirable ». Et à partir de ce moment-là, ça a tout dénoué, parce que c'est un journal qui est de la région de Macron, etc. Deux jours après, j'avais un coup de fil du recteur de la région qui me dit « on va tout mettre à votre disposition ». Je lui dis « mais j'ai besoin de rien, moi j'ai simplement besoin d'aller rencontrer ces jeunes gens pour leur expliquer mes convictions ».
Beaucoup d'indignation, mais aussi des messages d'aigreur.
Oh oui.
Il ne faut pas s'en cacher, qui prouve aussi que plus d'un demi-siècle, dites-vous, après l'indépendance de l'Algérie, le feu couve encore sous la cendre. Et donc, du coup, vous reprenez un par un les arguments des élèves, à commencer par cette contre-vérité selon laquelle vous n'êtes pas français, Aclit Adjer, alors que, rappelons-le, vous êtes bien né à Paris. Est-ce que c'est pas terrible, d'ailleurs, d'être défini par sa nationalité et ses origines?
Terrible. Mais moi, je trouve que c'est une forme, pas de racisme, mais finalement d'une forme de stigmatisation quand à chaque fois, on vous rappelle que vous êtes franco-algérien. Mais je veux dire, ça, on le dit de personne d'autre. D'ailleurs, je demande jamais la nationalité de qui que ce soit. Ça me paraîtrait complètement mais gênant. Je trouve un peu offensant pour la personne, parce que on est défini par ce qu'on est soi-même. On n'est pas défini par notre nationalité. Enfin, pour moi, ou par une religion supposée ou truc. Voilà, on m'invite parce que je m'appelle Aclit Adjer et peut-être que mon travail est intéressant. C'est pour ça qu'on m'invite. On m'invite pas parce que je suis franco-algérien. Enfin, je crois pas.
Parce que ça ne devrait pas être le cas.
Ça ne devrait pas être.
Alors, autre prétexte avancé par les élèves qui n'ont pas voulu lire votre livre, il y a du vocabulaire arabe, en fait, trois mots, couscous, tagine et harissa.
Des mots devenus français, quasiment francisés.
En effet, et que l'un de vos protagonistes s'appelle Messaoud. Et alors là, vous poussez, à juste titre d'ailleurs, un cri de colère, en rappelant le nombre de jeunes garçons algériens prénommés Messaoud qui sont morts pour la France pendant la Première et Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'à un moment, néanmoins, Aclit Adjer, vous n'avez pas été découragé par cette montagne d'ignorance, de mauvaise foi et de racisme à laquelle vous deviez vous attaquer?
En même temps, moi, j'ai pas été découragé parce que c'était quelque chose qui me stimulait. Je suis pas allé comme quelqu'un, pour le coup, comme un soldat battu d'avant. Je me suis dit, je sais pas ce qui va rester dans leur tête, mais il faut qu'ils sachent certaines choses. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le chef de
l'établissement? Non.
De la bande des élèves, là, il a déserté ce jour-là, il n'est pas venu. Celui qui n'a pas voulu lire le prénom de Messaoud, celui-là, il n'est pas venu.
Donc, celui qui menait la fronde.
Voilà. Donc à lui, je voulais lui dire que ne pas vouloir prononcer le nom de ce soldat qui est mort pour la France, alors qu'on est venu le chercher de son doigt au bout du monde, et qu'il ne connaissait ni les enjeux de cette guerre, ni pourquoi on l'avait envoyé là. Il est mort aux portes de sa ville. Je voulais lui dire que, en fait, ne pas avoir voulu prononcer son nom, c'est comme s'il le tuait deux fois. Voilà, c'est ça que je voulais lui dire. Alors, ma frustration est venue qu'il n'était pas là, et donc j'ai pas pu lui dire.
Mais il y en avait d'autres, et ceux-là, vous les avez rencontrés.
C'est vrai qu'ils sont plaisants, tous ces petits villages, tous ces bourgs, ces hameaux, ces lieux-dits, ces cités, avec leurs châteaux forts, leurs églises, leurs plages, ils n'ont qu'un seul point faible, et c'est d'être habité. Et c'est d'être habité par des gens qui regardent le reste avec mépris du haut de leur rempart. La race des chauvins, des porteurs de cocardes, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Maudits soient ces enfants de leur mère patrie, empalés une fois pour toutes sur leur clocher, qui vous montrent leur tour, leur musée, leur mairie, vous font voir du pays natal jusqu'à Loucher, qu'ils sortent de Paris ou de Rome ou de Sète ou du diable Vauvert ou bien de Zanzibar. Ou même de mon cul, ils s'en flattent mazette, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Le sable dans lequel douillettent leurs autruches enfouissent la tête. On trouve pas plus fin quant à l'air qu'ils emploient pour gonfler leurs baudruches, leurs bulles de savon. C'est du souffle divin. Et petit à petit, les voilà qui se montent le cou jusqu'à penser que le crottin fait part. Leurs chevaux, même en bois, rend jaloux tout le monde. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. C'est pas un lieu commun, celui de leur naissance. Ils plaignent de tout cœur les pauvres malchanceux, les petits maladroits qui n'eurent pas la présence, la présence d'esprit de voir le jour chez eux. Quand sonne le tocsin sur leur bonheur précaire, contre les étrangers tous plus ou moins barbares, ils sortent de leur trou pour mourir à la guerre. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Mon Dieu, qu'il ferait bon sur la terre des hommes si l'on y rencontrait cette race incongrue, cette race importune, et qui partout foisonne, la race des gens du terroir, des gens du cru. Que la vie serait belle en toutes circonstances si vous n'aviez tiré du néant ces jobards. Preuve peut-être bien de votre inexistence, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI, en compagnie aujourd'hui de l'écrivain Akli Tadjer, auteur d'un récit intitulé « Qui n'est pas raciste ici ?» point d'interrogation, paru aux éditions Jean-Claude Lattès. Un titre qui reprend exactement la première phrase que vous avez prononcée donc devant une classe de lycée dont quelques mois plus tôt, certains élèves avaient refusé de lire votre roman « Le porteur de cartable » pour des raisons précisément racistes. Rappel des faits avec ce reportage de notre consoeur, la chaîne France 24.
Akli Tadjer a publié en 2002 un roman « Le porteur de cartable ». Une œuvre qui appartenait au passé, jusqu'à ce que quelques élèves d'un lycée de Picardie refusent d'étudier ce texte pour des motifs clairement racistes. Akli Tadjer part donc à la rencontre de 25 lycéens, une rencontre à huis clos pour la sérénité des échanges. Devant le lycée, des élèves évoquent l'affaire et se félicitent de la venue de l'auteur.
Ils prendront conscience de ce qu'ils ont fait et des mots qu'ils ont su dire ou du mal que ça a pu faire même à l'auteur. Beaucoup de gens qui votent le FN et du coup on est influencé par les votes des autres ou tout ce qui est dit par exemple dans le lycée, quoi. Je veux pas lire un auteur parce qu'il y a des mots arabes et du coup il y en a qui vont suivre et il y a des autres qui vont dire non comme nous.
Voilà, quelques témoignages de ces élèves, plutôt en votre faveur d'ailleurs, Akli Tadjer, au moment où vous allez dans cette classe affronter. Dans quel état d'esprit étiez-vous? Est-ce qu'il y avait une crainte en vous ou vraiment une volonté de ferrailler, de débattre?
Non, il n'y avait pas de crainte particulière, parce que je suis pas tombé non plus de la dernière pluie, du racisme, j'en ai entendu, je vais en entendre encore et tout, donc j'ai le cuir un peu épais là-dessus. Ce qu'il y avait d'intéressant finalement pour moi, c'était d'aller voir des jeunes de 17 ans qui se disent ouvertement racistes. Et ça, c'est pas banal. Ça, c'est pas banal, parce que c'est quelque chose pas très très bien assumé. Faut dire les choses, les gens. Tandis que là, c'était clairement assumé. Et quand je suis rentré donc dans cette classe, l'enseignante me dit, bon, ben, nous allons parler du porteur de cartable. Je lui dis, mais vous plaisantez, vous croyez pas que je suis venu jusque dans votre lycée pour parler du porteur de cartable qu'aucun n'a lu. Et donc, elle est restée un peu en retrait, un peu gênée. Et donc, la première question que je leur ai posée, elle m'est sortie comme ça, sans trop réfléchir. Je lui dis, qui n'est pas raciste ici? Évidemment, ça a jeté un froid parce que, on la pose jamais sous cette forme, cette question. D'ailleurs, on pose rarement cette question. On demande pas aux gens, vous êtes raciste, pas raciste. Mais qui n'est pas, ça suppose que il y en a de fait. C'est ça que ça suppose. Et donc, il y en a une dizaine qui ont levé la main comme ça, spontanément, pour dire que, voilà, ils n'étaient pas non plus. C'est pas, il y en a quelques-uns qui ont, sont répété la question, qui n'est pas raciste ici. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que je suis raciste, pas raciste, peut-être? Finalement, ils ont, quelques-uns ont levé la main, et puis après, il y a eu des moutons, comme d'habitude. Et il y en a 8 sur 24 qui n'ont pas levé la main.
Donc qui étaient racistes, ou qui assumaient le fait d'être racistes.
Qui assumaient. Et ben, d'ailleurs, j'ai demandé à un, je lui ai dit, donc, tu es raciste. Et donc, il opine de la tête. Et ça fait drôle quand vous avez posé cette question à quelqu'un qui vous dit oui, dans les yeux. Et c'est, il a 17 ans. Puis un autre, je lui dis, et toi aussi, t'es raciste? Et il me dit, non, moi, je ne suis pas raciste, moi, c'est politique. Alors, mais moi, il y a même envie de rire, mais oui. Moi, il y avait, parce que lui, c'était un peu le cérébral de la bande, quoi. Et donc, je suis rentré dans le vif du sujet. Après, j'aurais demandé, voilà, mais pourquoi tu es raciste?
Et surtout, ce qu'il faut rappeler, c'est que la première mission aussi de votre démarche, je pense, au-delà du dialogue, c'est quand même pour dire que le racisme est un délit. Et,
oui.
Et qu'il est puni par la loi, ce que les gens ont un peu tendance à oublier. Il y a quand même des choses à remettre noir sur blanc, non?
En fait, ce qu'il faut, il y a une chose aussi qui est très importante, c'est qu'aussi, je suis allé dans cette classe, ces jeunes gens ont 17 ans. Ils avaient 17 ans en novembre. Donc, cette année, ils ont 18.
Majeurs.
Donc, ils votent. C'est-à-dire que leur voix vaut la vôtre. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça vaut celle du président de la République. Elle vaut, voilà, une voix vaut une voix. Et donc, je me suis dit, il faut qu'ils sachent quand même des choses importantes, dont, qu'ils sachent le minimum du droit, c'est-à-dire que le racisme, c'est pas une opinion, c'est pas une idée, c'est pas un idéal, c'est pas un rêve. Alors peut-être que c'est un rêve dans leur tête, mais pour l'instant, tant que ça reste un rêve, moi ça me gêne pas. Mais faut qu'ils sachent que c'est un délit et que là, donc quand ils vont avoir 18 ans, ils vont être responsables de leur dire. Et beaucoup le savaient pas. Vous savez pourquoi beaucoup le savaient pas? Parce que quand ils regardent la télé et qu'ils voient Monsieur Zemmour,
Éric Zemmour,
qui dit pique-pan, par exemple, sur cette jeune femme noire, en l'insultant, en disant que son prénom, c'est le déshonneur de la France, comme il passe sur tous les médias, bah, ces jeunes gens-là qui sont devant leur télé, ils se disent, bon, bah, ce Zemmour qui passe et tout, et qui fait rire tout le monde avec ses blagues, franchement, un peu épaisses, bah, ils se disent, bah, lui, s'il a le droit de le dire, pourquoi moi, je le dirais pas?
Oui, parce qu'il y a une impunité, visiblement.
Voilà, ils disent, bah, oui, bah, lui, il a le droit, il passe sur toutes les télés, ouais. Il a le droit de dire que la petite noire, son prénom, c'est la honte. Pourquoi moi, je vais lire Messaoud? Pourquoi moi, je dirais Messaoud? Parce que lui, il veut pas même prononcer le nom de cette jeune femme.
Alors, ce que je voudrais dire aussi, Aklitaja, c'est que vous vous retrouvez quand même devant une classe composée uniquement de garçons blancs.
Oui.
Pas de noirs, pas de jaunes, pas d'arabes, pas même de métis.
Oui.
Tous monocolores, dites-vous, et moi j'ajoute monosexe.
Oui.
Est-ce que selon vous, cela aurait changé quelque chose s'il y avait eu une fille ou un adolescent biculturel?
Ah, je pense que ça aurait fait quelque chose, soit il l'aurait écrasé, ça aurait été le souffre-douleur de la classe, ou soit quelques-uns seraient ouverts à cette jeune fille ou ce jeune homme pour essayer de comprendre un peu que voilà, il est noir, c'est pas de sa faute, il va falloir faire avec, il est français comme eux, ça il faut qu'ils le comprennent. Cette jeune femme, si elle avait été dans cette classe, il va falloir qu'ils acceptent que l'autre soit son égal et pas simplement une fille qu'on va cipler dans les couloirs et tout et qu'on va imaginer simplement comme une fille à draguer, quoi. Moi je pour vous dire les choses, je savais même pas aujourd'hui, en France, en 2019, c'était possible qu'une classe avec que des garçons. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de visites dans des établissements scolaires. J'ai la chance qu'on m'invite et tout. Et moi, je le fais quand je peux et avec plaisir. Mais c'est tout le temps, d'abord, c'est tout le temps mixte. Et puis, il y a toutes les couleurs de la France. avec toutes les nuances, toutes mais j'ai l'impression d'être dans un film des années 70, quoi.
Donc là, c'est l'absence de diversité aussi.
Les campagnes qui sont quasiment moribondes, il n'y a pas de travail, les gens vivent qu'entre eux, ils ne sortent jamais de leur village. Par exemple, pour aller dans la grande ville qui est à 40 kilomètres là, qui s'appelle Amiens, mais c'est une mission pour eux, ils ont peur d'aller là-bas, ils se disent, oh là là, mais c'est... On se rend pas compte, mais il y a cette France-là qui vit comme ça, renfermée sur elle, et finalement, ils sont pas racistes au sens où ils se sentent supérieurs. En fait, ils sont dans la xénophobie, c'est qu'ils ont peur de l'autre. Ils ont peur que l'autre qui va arriver va les déstabiliser. Moi, certains m'ont dit, moi, je sais pas si je suis raciste, mais j'ai peur, par exemple, j'aime pas les autres parce que si un jour il y a Koulibaly ou Mera qui arrive dans mon village, mais je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils viennent faire dans ton village?
Oui, mais alors, c'est important que vous parliez de ça, en effet, parce qu'on se rend compte très vite que la question du racisme, c'est plutôt aussi se déplace vers la question de l'islamophobie.
Bien sûr.
Et ça, pour le coup, c'est quelque chose que vous pouvez comprendre.
Non seulement je peux le comprendre, mais je peux comprendre ce que c'est que la violence de l'islam, parce que il se trouve que bon, moi j'ai jamais vécu en Algérie, mais durant les années 90, moi j'étais souvent là-bas parce que mon père était vieux, voulait finir ses jours en Algérie, donc je l'accompagnais tout le temps, et c'était en pleine période de terreur. Et
la décennie noire, oui.
Les fameuses décennies noires, et c'était l'horreur sans fin, quoi. Encore, moi, j'avais pas bien tous les paramètres en tête, parce que j'étais là un peu en transit, de fait. Mais c'était d'une violence inouïe. Rappelez-vous, c'est 200 000 morts, c'est d'une violence en soi, mais des actes de torture en soi aussi. Et donc, toutes ces images qui sont charriées par les médias, à ça vous rajoutez les horreurs du monde arabe en permanence, parce qu'il faut dire les choses qu'elles sont, les images, vous avez très 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 rarement une image positive qui vient du monde arabe, ça n'existe pas. Alors il faut remonter à je ne sais pas quand, hein. Peut-être un athlète qui gagne une coupe ou un machin comme ça, mais des régimes arabes, c'est que de la violence. Et donc en fait, ces images qui nous parviennent ici, finalement les jeunes qui voient là-bas, ils disent « mais c'est quoi ce monde ?» C'est quoi ce monde? Et chaque fois la Syrie, c'est l'horreur, l'Irak, c'est l'horreur. Même si ils font pas une analyse pour savoir pourquoi c'est l'horreur. Mais ce qui nous parvient, c'est des images de la violence du monde arabe. Alors, donc ça, ils en ont peur.
Oi, alors c'est un renvoi.
Ils extrapolent, bien sûr.
C'est un renvoi du monde. Certains disent aussi qu'ils sont racistes parce que cette famille. Il faut également souligner que leur lien à la culture, voire à la littérature, est quasiment inexistant. Et que, du coup, leur horizon ne s'est pas ouvert aux autres horizons. Et c'est pour ça, d'ailleurs, Aklit Hajjar, que vous allez régulièrement dans les écoles, depuis longtemps, rencontrer ces jeunes, alors de façon plus générale, hein, parce que vous pensez que l'écrivain aussi a un rôle social.
Bah oui, moi je considère que l'écrivain il a quand même une fonction sociale. Vous savez, si je devais rester uniquement dans mon bureau et puis attendre comme ça les lauriers de la gloire, je pourrais pourrir très très vite. Ou alors mais je me dis que voilà, ma fonction c'est d'aller rencontrer les autres, de leur expliquer pourquoi c'est important la littérature et pourquoi elle m'a sauvé moi. Elle m'a sauvé, parce que moi je suis issu d'un milieu très modeste.
D'ailleurs, vous n'aimiez pas tellement ça, l'école?
Ben non, j'aimais pas du tout ça même. Je pensais que vraiment c'était à chaque fois une souffrance d'aller à l'école.
C'était lié à quoi?
Ben, c'est lié, vous savez, c'est aussi lié au milieu social auquel vous appartenez. Parce que moi j'avais des parents qui étaient même pas illettrés, ils étaient analphabètes. Ce qui fait que quand je rentrais chez moi, il y avait personne pour m'aider. Ce qui fait que j'étais dans le décrochage. Alors, comme j'avais un cerveau qui marchait à peu près, donc j'arrivais à suivre. Mais il y a des choses que je ne pouvais pas suivre. Par exemple, je sais pas, prendre l'algèbre, si vous comprenez pas, s'il y a personne pour vous aider, voilà, vous allez plonger direct. Bon, il se trouve que j'étais très bon en français, alors à chaque fois, ça remontait mes notes. Mais donc, finalement, il y avait une espèce de dégoût de l'école, parce que il y avait personne pour vous tendre la main. C'est pour ça que je pense que j'avais aussi un peu un rejet de tout ça, parce que je sentais que, voilà, le fossé se creusait petit à petit. Donc, quand je vais voir ces jeunes filles, ces jeunes garçons, je leur explique pourquoi c'est important la littérature. Parce que quand vous appartenez donc à un monde modeste, même moyen, souvent, le monde s'arrête au bout de votre rue. Et vous n'imaginez pas que le monde puisse être aussi grand. Et moi, c'est à travers la littérature que j'ai appris, j'ai découvert d'autres paysages, d'autres cultures, d'autres horizons, d'autres...
Jules Verne,
qui m'a fait voyager au centre de la Terre, et puis et plus tard sur les étoiles, mais c'est magnifique quand on sait ça, quand le monde arrive, vous arrive à travers des livres, à travers des pages, et puis ça enrichit votre vocabulaire, je leur dis, même s'il y a des mots dont vous ne servirez jamais, parce qu'on apprend plein de mots dont on se sert pas, c'est pour ça que c'est important. Alors j'arrive à en convaincre quelques-uns, et puis il y en a qui parfois me disent, ils ont jamais osé, qui avaient commencé à écrire des livres ou écrit ce qu'ils appellent des livres.
D'ailleurs, il y a une scène dans votre récit qui est absolument poignante où il y a un garçon qui d'habitude n'ouvre jamais la bouche.
Il ne parlait jamais.
Et là, qu'est-ce qu'il vous dit ?
Il me dit voilà, bon, j'écris un livre moi, et puis c'est un garçon qui était gros, hein, obèse et tout. Et l'enseignante m'a dit c'est la première fois qu'il parle, parce que j'ai réussi quand même à faire un dialogue avec ces jeunes garçons, hein, faut dire, parce qu'il n'y a pas de filles. J'ai réussi à nouer un dialogue et il a dit voilà, j'ai écrit un livre, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a envie de mourir parce qu'il est gros, et puis c'est là, il est la risée de toute la classe depuis qu'il est à l'école, il a envie de mourir, mais s'il se tue pas, c'est parce qu'il aime ses parents. Alors il y a que quand il dort qu'il est bien, parce qu'il rêve qu'il est mort. Et j'ai trouvé que c'était bouleversant, quoi. Tout ça pour vous dire que on peut être stigmatisé en raison de la couleur de sa peau, de sa religion, de voilà. Mais aussi on peut être stigmatisé parce que on est gros, parce qu'on est trop grand, on est trop maigre,
par
on est
par sa différence,
voilà. Et tant qu'on n'est pas dans les canons que vous renvoient parfois les médias, ben vous êtes de fait mis sur le côté. C'est pour ça que tout le monde essaye de ressembler à tout le monde, c'est-à-dire à personne.
Et c'est là où la littérature et l'écriture font la différence, voilà. Parce qu'on peut justement revendiquer sa singularité.
Voilà, je préfère sa singularité que sa différence, parce qu'il y a quelque chose de plus intime, de plus personnel.
Est-ce que vous voulez bien, pour finir, Aclita Djer, nous lire ce qui clôt ce récit qui n'est pas raciste ici ? Parce que je crois que dans cet extrait est résumé le parcours, le combat, la pensée et la richesse.
Je suis venu dans ce lycée de province pour faire comprendre à ces jeunes qu'il n'y a pas eux et les autres. En entrant dans cette classe, je pensais trouver des petits durs, hostiles, butés. Je m'attendais même à des provocations de leur part. Je n'ai vu que des jeunes gens réservés, inquiets pour leur avenir. Comme leurs parents qui ne travaillent pas, ils se sentent déclassés, oubliés. Le bouc émissaire, à leur malheur, est alors tout trouvé. Il est le même depuis la nuit des temps, l'étranger. Et ce ne sont pas les médias qui diffusent en boucle des reportages sur l'arrivée de nouveaux migrants ou sur l'islamisation des banlieues qui les feront changer d'avis. Quand les partis politiques s'en mêlent, c'est la confusion. On fait volontairement ou pas l'amalgame entre les demandeurs d'asile, les clandestins, les travailleurs légaux, les jeunes des banlieues français depuis 3 ou 4 générations, et le communautarisme. Alors, vu de cette France silencieuse, on redoute qu'à la souffrance s'ajoute une autre épreuve, l'arrivée d'immigrés dans le village. Que viendrait faire un étranger, là où les entreprises ont plié bagages depuis si longtemps que les plus jeunes ne les ont jamais vues ouvertes? Rien à faire, leur peur est irrationnelle. Comment sortir de ce cercle infernal? Je n'ai pas d'autre recette que de sillonner ce pays de collège en lycée pour répéter inlassablement qu'il n'y a pas plus grande injustice que d'être discriminé en raison de la couleur de sa peau ou de sa religion. La France est l'un des rares pays où peuvent vivre en paix des gens venus de partout. Profitons-en, c'est notre richesse, notre unique richesse.
Merci. Qu'est-ce que cette expérience a changé en vous, comme homme et comme écrivain ?
Oh, et cette expérience, finalement, ce que j'ai retenu de cette expérience, c'est que j'ai pu voir des gamins, des jeunes gens, comme ça, désemparés. Je les excuse pas. Je peux pas les excuser d'avoir des propos violents, racistes, à l'égard de gens qui ne connaissent même pas. Mais voilà, en allant là-bas, j'ai voulu essayer de les comprendre, savoir comment on en arrive là. J'ai pas tout compris. Je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre, voilà. Et je leur souhaite le meilleur, parce que je pense que à 17 ans, on peut pas partir dans la vie avec des préjugés aussi forts sur les autres.
Et vous pensez que ça va changer quelque chose dans votre écriture prochaine ?
Ben moi, je pense pas. Hein, je pense pas, parce que moi, je pense que moi, je suis pas raciste. Alors.
Alors, on va se quitter sur cette belle phrase. Merci beaucoup. Aclita Djer, je rappelle que vous êtes l'auteur de ce récit qui s'intitule « Qui n'est pas raciste ici ?» publié chez Jean-Claude Lattès.